rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de la jeunesse. C'est une émission spéciale. Que va devenir la jeunesse au troisième millénaire? C'est une grave question parce que les problèmes sont graves. Dans des ouvrages du sociologue québécois Jacques Grandmaison, on nous révèle bien des choses dans ses études sociologiques qu'il a dirigées. Sur la génération en particulier, j'ai lu celui des 20 à 35 ans. Génération vraiment vidée d'elle-même, on dirait. Parce qu'il faut une foi puis une espérance en santé pour survivre à la lecture des résultats de son enquête et de l'enquête de son équipe. Hein. Il a fait une étude aussi, la crise spirituelle des adolescents, qui est tragique aussi. C'est une contribution extrêmement intéressante qu'il apporte à l'étude de ce phénomène, mais, comme le dit Léopold Ouellet, la sociologie nous laisse sur notre faim. Quant aux moyens, c'est ça le sujet de cette émission, je voudrais te donner des moyens de réaliser la nouvelle évangélisation de ce groupe des jeunes du troisième millénaire. Parce que les études du chanoine Grandmaison nous montrent bien que la pratique religieuse, si on la mesure là, par l'assistance à la messe dominicale, c'est comme ce qu'on fait habituellement, elle est inférieure à 1%. 1%. On pensait que c'était le creux de la vague, il y a quelques années, des statistiques dans ce genre. Mais c'est même moins de 1%. Et pour tous ceux qui ont une mémoire raisonnable de l'Église du Québec avant 1960, c'est à la fois un choc. Pour moi, c'est un choc à l'âge que j'ai. Je suis absolument renversé devant de telles statistiques. On peut se demander comment tout cela a pu se produire. Il écrit d'ailleurs, Jacques Grandmaison, les multiples interviews auprès des jeunes, jusqu'à 35 ans, font ressortir que la famille joue un grand rôle dans la transmission de l'héritage culturel et de l'héritage chrétien notamment. Et cette génération, qui est née durant la Révolution tranquille, période de remise en question à tous les plans, eh bien ces années ont été caractérisées par une mise à distance de tout ce qu'on avait acquis, à tous les niveaux, et la foi catholique n'a pas échappé à cet examen critique, qui a connu une déculturation progressive. Hein. On a rejeté notre histoire, on a rejeté la religion, on a rejeté notre passé. On croit qu'il n'y avait rien avant, il y a quelques années. L'éducation religieuse d'une jeune fille qui s'appelle Caroline est sans racine, parce qu'elle ne fait pas partie de l'héritage culturel transmis par la famille. Et nous sommes profondément, me semble, tout le monde d'accord que la foi doit être transmise d'abord par la famille, c'est sûr, mais c'est pas si facile que ça. Ce que l'expérience nous apprend, et c'est très douloureux d'ailleurs, c'est que cette transmission de la foi, qui ne peut se passer du véhicule de la culture, elle doit être continuée par l'école et on s'en rend de plus en plus compte ces jours-ci à force de discuter du rapport Proulx dont il est question partout, partout. Parce que les adultes ont décroché massivement et on me dit que même des adultes de 75 et 80 ans, 85 ans, décrochent dans les résidences de vieillards. Et c'est une évidence. Et que vont devenir les jeunes? S'il n'y a plus de 1% des enfants qui ont reçu la foi avec la culture dans la famille, cette foi et cette culture n'a pas pu survivre, c'est sûr. L'école, puis les moyens de communication, surtout la télévision, d'ailleurs, ont tué cette foi. Parce qu'à l'école, ce qui se passe est souvent terrible. Il y a de bons professeurs de religion, mais en général, c'est plutôt pénible. Et la télévision, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue la foi. Je pourrais vous faire remarquer des émissions que j'ai vues il y a quelques jours comme ça, au hasard. J'ouvre et je referme. Je tombe sur des choses terribles, ou du moins pénibles. Il y a un témoignage d'un jeune qui dit « Ce n'est pas facile d'aller à contre-courant du pessimisme actuel, à contre-courant de tant d'adultes, surtout de la trentaine et de la quarantaine, pour qui il n'y a plus rien de sacré. J'ai eu pas mal de professeurs qui avaient cette mentalité-là, et leur cynisme de luxe m'écœurait. Avec leur sécurité d'emploi à vie, ils trouvaient le tour de baver dessus. » Et actuellement, les professeurs qui ne veulent plus s'occuper des enfants en dehors des classes et les amener se cultiver en voyant des pièces de théâtre ou autre chose, eh bien, les jeunes sont dans la rue, perdent leurs cours pendant que les professeurs enseignent. Je me demande si les jeunes ne devraient pas protester plutôt devant leurs professeurs que de ralentir la circulation des gens qui travaillent ou qui se rendent quelque part pour aider quelqu'un. Une très grande partie de cette génération d'adultes a combattu la religion sous toutes ses formes et les jeunes ne savent plus où ils en sont. Et dans l'ouvrage de Grand Maison, on peut lire ceci. La religion, apparentée à une forme d'encadrement de la servitude d'un peuple. C'est comme ça qu'on présente la religion, hein? Ça asservit le peuple québécois. Ça devient, pour sa part, le foyer vers lequel sont dirigées toutes les vexations éprouvées par une collectivité ou une génération, hein. On crie contre les évêques, on crie contre même les évêques actuels. On crie. Et ça tend à se représenter dans la position de celui qui accède à un statut supérieur, celui qui critique. Nous sommes supérieurs à notre passé. Allons-y voir. Toute autre dimension est volontairement refoulée, dit le texte de Grand Maison, sinon violemment combattue. Tout le domaine du symbolique est associé à l'idée rebutante du traditionnalisme. C'est renié dans la mesure où toute pratique de cet ordre est à l'opposé de l'être collectif moderne en train de se constituer. Alors l'être moderne qui se constitue doit être libéré de toutes ces choses et qui sont des niaiseries. Faudrait voir sérieusement si c'est vrai. C'est intéressant que le chanoine Grand Maison puis son équipe nous écrivent ces choses, qu'on regarde en face le drame qui se déroule. Parce que le mythe largement répandu par tant d'enseignants du secondaire et du collégial, qu'est-ce que c'est? Puis aussi par les médias, j'ai été réalisateur longtemps, pendant 30 ans. Mais ce mythe, c'est que le Québec catholique était irrespirable, paraît-il. Que le Québec, il y a quelques années, était dans l'ignorance, dans la noirceur. Et puis que nous autres, là, moi j'ai 73 ans, qu'on accédait aujourd'hui, quand je regarde ça, ils prétendent qu'ils accèdent, eux, enfin, aujourd'hui, à la lumière de la modernité, qu'ils disent. C'est avec un paradoxe dont ils paraissent absolument inconscients, dit Léopold Ouellet, qu'ils dénoncent les maux de la société, ces professeurs ou ces gens de la télévision. Ils dénoncent les maux de la société, et c'est le texte de Grand Maison maintenant que je lis, tout en faisant l'apologie de comportements qui, justement, sont parmi les sources des problèmes qu'on stigmatise. Ils approuvent des choses qui les enchaînent. Pensons à toute la négativité fort répandue qu'on rattache aux valeurs de stabilité. On trouve ça fou, la stabilité. J'entendais une émission hier où on disait, des femmes disaient qu'il était normal de tromper son mari de nos jours. Au Canal Vie. Les valeurs d'équilibre aussi. Faut être un peu fou, déchaîné, invraisemblable. Les valeurs de maturité aussi, la vraie maturité. Pas celle, la maturité qui permet de faire des fortunes, d'accéder à des pouvoirs qui ne mènent nulle part. On nie les valeurs qui sont rattachées à la fonction, disons, de l'autorité. Ah, ça. Puis de la foi, surtout. Puis de la loi. Pourtant, tout ça, c'est nécessaire pour la construction construction psychique, aussi bien que sociale, de la personnalité d'un enfant, fait remarquer le chanoine Grandmaison. S'il est un problème, ajoute-t-il, crucial, que nous avons rencontré dans cette recherche, c'est bien celui de la déculturation jusqu'à sa base la plus simple et la plus fondamentale, à savoir les mots pour le dire, pour communiquer, ils n'ont plus de vocabulaire. Pas tous, mais beaucoup n'ont plus de vocabulaire, ou du moins ne connaissent plus le sens des mots. Ils ne savent plus les mots chrétiens. Ils ne connaissent plus le sens. On peut le, si on leur parle de la foi, du christianisme, si on leur dit que dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus demande à ses apôtres, et vous, qui dites-vous que je suis, et qu'on entend dans cet Évangile qui est lu partout dans le monde aujourd'hui, s'ils entrent dans une église aujourd'hui, puis ils entendent ça, ils vont entendre que Saint-Pierre répond, tu es le Messie. Messie? Ça veut dire l'envoyé particulier, personnel, excellent, parfait de Dieu. Celui qui est là pour nous communiquer comment être heureux. On a complètement saboté, au fond, la source même de la culture, de notre héritage culturel, religieux, chrétien, y est saboté. Et les jeunes, bien, fabriquent un semblant de cohérence, quoi. Où est-ce qu'ils vont chercher? Bien, dans toutes sortes de croyances qui foisonnent à la télévision, dans les sectes, dans l'ésotérisme, dans les librairies, où la section ésotérisme a remplacé la section religieuse. On en déduit une espèce de langage vague, du genre que je vous dis ici, c'est celui que nous rapporte le chanoine Grandmaison. Il y a sûrement quelque chose qui existe quelque part. L'essentiel, c'est de toucher mon essentiel. L'essentiel, c'est de toucher mon essentiel. Je suis branché sur la vraie conscience universelle cosmique, énergétique, douce, harmonieuse. Il faut inventer le langage de ce nouveau vécu. Il y a du vrai dans tout ça, et ça peut être même très beau. Mais que c'est triste qu'on aille se noyer là. Quand il y a un autre langage chrétien qui nous révèle les vraies choses au sujet du Christ. Ce genre de discours, incapable d'aucune référence à la vie réelle du travail, de la famille, de l'amour entre les personnes. Et Jacques Grandmaison conclut, quand les jeunes universitaires, oui, des jeunes universitaires, des jeunes professionnels apparemment très sécularisés se mettent tout à coup à discourir en termes pareils, les bras vous tombent. Et vous vous demandez si la déculturation n'a pas atteint la limite de l'absurde. Alors on se bat contre la langue déstructurée, mais une langue se déstructure quand on n'a jamais appris à raisonner, à évaluer, à juger, on ne sait plus parler. Il faut un retour à une philosophie, il me semble, qui soit un véritable apprentissage de la pensée. Plutôt que d'être l'instrument par excellence de la destruction de la culture, comme le dit bien M. Ouellet, et après le mythe de la servitude de la religion, ce mythe épouvantable de la servitude de la religion, comme si c'était vraiment rien que ça, il y avait aussi autre chose, le mythe de la servitude de la religion qui bloquait notre épanouissement, on se réfugie dans une politique de la servitude à la culture anglophone. Et le mouvement laïque, je vous le fais remarquer, de langue française, qui est idéologiquement très anti-religieux, eh bien, il en arrive depuis plusieurs années à effectuer un grand virage en constatant que nos collégiens ne sont plus capables de comprendre leur civilisation. Et c'est le chanoine Grandmaison qui rapporte que l'histoire occidentale leur est inconnue, ses grandes œuvres, parce qu'ils ne maîtrisent plus le code chrétien, c'est ce que disent les laïcs de langue française qui sont antichrétiens, au fond. Puis ils disent ça, eux. Ils ajoutent comment comprendre les grands événements de l'histoire occidentale, les grandes œuvres d'art, les philosophes, les grandes philosophies, les sagesses, les grandes traditions qui nous ont marquées sans aucune connaissance, aucune initiation pour maîtriser le code chrétien, le vocabulaire, les mots, son langage, ses symboles, ses valeurs. Et ce virage s'impose avec encore plus d'urgence chez nous. Et c'est ce que disent des athées et des agnostiques. C'est curieux, on en est rendu là. On pourrait peut-être se poser la question, qu'est-ce que Jean-Paul II a à dire de ça? Il dit attribuer à notre époque, c'est-à-dire à des causes extérieures. Curieux, la responsabilité de nombreuses défections serait une explication superficielle. Alors, hop, il regarde à l'intérieur de l'Église. Son Église. Il dit, pour comprendre la crise dont nous souffrons, il faut remonter à une certaine analyse évangélique des causes, à l'abandon de certaines vérités de la foi. Quand on... Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça, le catéchisme hollandais qui est paru il y a déjà de nombreuses années. Un catéchisme pour la Hollande. C'était stupéfiant de lire ça. Il niait le sacerdoce des prêtres, le sacerdoce sacramentel. Il niait même la présence eucharistique, probablement sous l'influence un peu de Skilbeck au début, mais à la suite d'autres. Et ce catéchisme ouvrait beaucoup d'autres vérités, abolissait toutes sortes de choses qu'on disait en morale, pour transformer ça en subjectivité. Il fallait être plutôt subjectif qu'objectif, autant que possible en morale. Et ça a fortement contribué au rejet entier de notre héritage religieux dans bien des régions du catholicisme hollandais. Et ça a fait tache d'huile. On peut souligner aussi les excès de ce qui a entouré le Concile Vatican II et qui ne tient pas au Concile Vatican II. C'est un faux esprit qui liait au splendide esprit de Vatican II toutes sortes d'opinions théologiques les plus audacieuses, les plus loin de la vérité de l'Église. Et comment s'étonner d'une révolte générale des adultes qui n'ont pas transmis la foi aux jeunes d'aujourd'hui, quand n'importe qui s'est mis à enseigner n'importe quoi dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos universités, à la télévision, et même dans des postes religieux, dans des émissions religieuses. Sans aucune, ils enseignent sans aucune intervention disciplinaire. Ils devraient avoir un peu de discipline des autorités religieuses, mais on laisse faire. On laisse dire n'importe quoi. Même dans les facultés de théologie, je le dis. C'est terrible. Je dis pas qu'il faudrait revenir à une inquisition. Soyons prudents. Mais il faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus de fermeté. On peut pas être mou. Uniquement mou. Je crois qu'on doit être plein de compassion, de tendresse, de compréhension. Mais aussi, il faut regarder toutes les dissidences importantes de certaines églises locales à travers le monde, dans le domaine de la théologie morale, de la discipline des sacrements, mais... On assiste parfois, j'assistais en Belgique à des messes insensées, invraisemblables, dans de grandes églises, dans des petites villes. L'enquête de Jacques Grandmaison révèle des restes de foi qui sont jugés encourageants pour l'avenir. Mais il y a une totale désaffection pour l'institution de l'Église. L'Église, en tant qu'institution, quelle qu'elle soit, c'est fini, on dirait. Ils n'en veulent plus. On s'attarde largement sur les causes sociologiques d'un tel phénomène. On l'attribue au raz-de-marée matérialiste, bon, hédoniste, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ou à l'absence de l'Église des vrais problèmes du quotidien des gens aussi, on dit ça. Mais on ne dit pas un mot de cette armée de théologiens, d'agents de pastoral et d'enseignants, m'excuse de les accuser, qui, sans le gouvernail d'une indispensable autorité quand même, ont semé le doute, sinon carrément le mépris de cette institution dans l'esprit puis le cœur des jeunes. Le catéchisme universel, puis deux encycliques sur la morale, il y a quelques années, ont suscité une offensive mondiale. Mais on a vu dans la presse de voir, qui font rarement des éditoriaux à caractère religieux, hein. Mais les deux, là, à l'occasion du voyage du pape, à cette époque, un voyage, ont publié des éditoriaux qui jugent très sévèrement le type d'intervention du pape en Amérique latine, comme nous le rapporte M. Wallet. Et On parle d'un pape qui bloque la magnifique ouverture de Jean XXIII et du Concile. On dénonce l'offensive de romanisation dirigée par le pape et le cardinal Ratzinger, comme si cette romanisation était nécessairement un cataclysme insondable pour l'Église. C'est sûr qu'une centralisation exagérée, il faut essayer d'éviter ça, mais il faut quand même une autorité. Les auteurs de l'enquête dirigée par le Jacques Grandmaison ont fait un chapitre intitulé « Neuf malentendus pastoraux à lever ». Bon, on peut pas tout lire, mais ils écrivent. Enfin, Chanoine Grandmaison écrit « L'avenir de l'Église, c'est d'être présente aux défis d'avenir les plus cruciaux du monde avec son ferment évangélique de libération et de salut. Libération des peuples, mais le salut aussi intérieur. Une vie intérieure vivante, quoi. » Il ajoute la foi évangélique trouve son premier sens vital dans la lumière et la force qu'elle apporte pour surmonter les nombreux défis humains que les gens vivent. Mais les propositions de foi, là, est-ce qu'il faudrait pas insister sur la foi au départ que les jeunes portent en eux? Alors il dit, Jésus lui-même s'est questionné sur sa mission, disent-ils. C'est très étrange. J'ai du difficulté à comprendre ces choses-là. Enfin, un tel langage dénote une espèce de déculturation chrétienne qu'il constate chez les jeunes, puis il n'y a plus de vérité de Dieu. On dirait qu'ils sombrent un peu dedans eux-mêmes. Il y a une espèce de vérité évolutive aujourd'hui, au gré des expériences humaines, ça affecte beaucoup les jeunes. Un Dieu lui-même évolutif qui chemine avec nous. Alors, les jeunes s'emprisonnent dans l'impossible Église qui est là, puis finalement, ils en sortent, assez rapidement. Ils coupent les nombreux liens essentiels avec celui, le pape, qui est le gardien visible du dépôt de la foi. On l'accuse de tous les torts. Et puis, ils accusent les catholiques dans mon genre de tourner en rond dans un univers religieux et spirituel qui ne mène nulle part. Mais il me semble que l'univers religieux vivant qui habite l'Église est un guide sûr que Jésus, dans sa sagesse, a donné à Saint-Pierre puis à ses successeurs. C'est ma foi. Pourquoi tourner en rond dans un univers qui nous mène nulle part, qui refuse d'autres guides que un ensemble de guides? Il faut l'expérience évolutive des hommes, disent-ils. Mais Jésus n'a pas dit « Je suis la voie, la sincérité et la vie », mais il dit « Je suis la vérité ». Puis aux apôtres réunis autour de Pierre, il a dit « Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Je n'ai aucun goût de rejeter Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'on peut penser que vont devenir nos jeunes? J'aime bien ce que disait le cardinal Lustiger aux millions de jeunes, millions, réunis pour les Journées mondiales de la jeunesse, il y a 2 ans, en 1997. On parle aujourd'hui, disait le cardinal Lustiger, archevêque de Paris, on parle aujourd'hui de la jeunesse d'une façon étonnante. La publicité, les médias nous en imposent une image obsédante. La jeunesse sert de grimage publicitaire pour vendre n'importe quel produit. Il n'est que de feuilleter les magazines, de regarder les affiches. Cette image est proposée comme l'idéal désirable, comme le mode de vie correct. Alors, tous les âges se déguisent en jeunes et consomment jeunes. Que deviennent les jeunes pendant ce temps? La plupart sont obligés de ressembler à l'image d'eux-mêmes que leur présente la société. Alors, ils achètent les disques faits pour les jeunes. Ils parlent le langage jeune. Ils s'habillent jeune et mangent jeune. De quoi se plaindraient-ils? Ils sont à l'honneur dans notre société. On ne parle que d'eux. On les prend pour modèles. Mais les jeunes ne trouvent plus d'adultes. Ils font face à des vieux déguisés en copains. Appelle-moi Roger. Pourtant, Voilà les jeunes réels. Oui, les jeunes réels, pourtant, sont les premiers touchés par le chômage. Ils sont les premières victimes des dérapages des mœurs. On leur enseigne à mettre des condoms à 9 ans dans nos écoles. Mon petit-fils, ça lui est arrivé. Il en a 14, il en est encore presque traumatisé. Ils sont les plus fragiles devant la drogue. Mon fils en est mort. Leur taux de suicide est le plus élevé. Mon fils a fait au moins 7-8 tentatives de suicide, mais n'est pas mort suicidé. Overdose. Ils subissent sans défense l'érotisation permissive de la société. Cardinal Lustiger conclut en disant « C'est que nous avons survalorisé une image de la jeunesse, laissant croire aux jeunes qu'ils sont exclus du sort commun. » Oh, il dit bien d'autres choses. Admirable, d'ailleurs. Je voudrais passer ce que dit une femme laïque, Isabelle Prêtre, dans un livre paru chez Téqui, « Cette soif qui vous habite », ce sont des lettres aux jeunes, puis elle dit à un moment donné « La pire des tentations de notre monde actuel est celle de la médiocrité. » Révoltez-vous d'une sainte révolte. Et quoi que vous en pensiez, dit-elle aux jeunes, c'est surtout contre cette tentation que l'Église désire vous mettre en garde, la médiocrité, de crainte que vous n'y succombiez. Vous avez raison de vous révolter contre un monde qui ne vous donne aucun idéal et qui vous empêche d'en posséder. Mais ne vous trompez pas de révolte, ni de cible. C'est bien contre le monde que vous devez vous révolter, contre tous ceux qui ne vous disent ni d'où vous venez, ni où vous allez. Et non contre ceux qui vous apprennent votre ascendance et votre destinée divine. Contre ceux qui vous offrent une fausse liberté en vous distribuant, par exemple, des seringues sous cellophane, histoire de mourir sans tomber malade et de se suicider dans le silence et la propreté. Et non contre ceux qui vous disent que les enfants de Dieu sont appelés à vénérer la vie. Ne vous révoltez pas contre ceux qui vous disent que les enfants de Dieu sont appelés à vénérer la vie. Révoltez-vous contre ceux qui vous parlent de compétition, du règne de l'avoir, du pouvoir de l'argent, du paraître, et qui vous font miroiter un avenir aux couleurs blafardes. Et ne vous révoltez pas contre ceux qui vous parlent de fraternité, du règne de l'être, du pouvoir de l'amour, et qui vous tendent un avenir aux couleurs divines. Dans votre dégoût, vous criez ras-le-bol. Et la tristesse, face à tout ce que le monde vous propose, vous en avez marre. Un néant dans un papier cadeau. Papier d'emballage, comme on dit ici. Vous avez raison de crier ras-le-bol, alors renversez les tables de pacotille pour remettre en place les tables des valeurs. Faites comme le Christ qui a renversé des tables au temple il y a 2000 ans. Il en avait ras-le-bol, lui aussi. Car le monde a perdu presque toutes les valeurs, dit Isabelle Prêtre, qui le rendent digne d'exister. Sans Dieu et sans les valeurs qui viennent de lui seul, le monde est invivable. Il s'écroule tel un château de cartes. Oui, rétablissez le beau, le vrai, le bien et le monde. Révoltez-vous d'une sainte révolte. Criez d'une voix de colère que vous n'êtes pas des objets à manier, des cerveaux à remplir, des animaux à amadouer, des clients pour publicité mensongère. Alors refusez la superficialité ambiante. Elle va finir par vous faire mourir de peine et de dégoût. Oui, refusez ce monde matérialiste, pragmatique, dont la seule gloire est l'utilité immédiate, et qui a provoqué le désastreux paradoxe de vous blesser, oui, de vous blesser aux jeunes, au point de vous faire dire, et moi, à quoi je sers? Pourquoi suis-je au monde? J'ai pas demandé à naître. Vous servez à aimer. Vous servez à aimer. Vous servez l'amour. Et l'amour est la seule valeur capable de sauver le monde. Refusez l'accumulation des idées et des choses, cet éparpillement qui vous écartèle et vous disloque. Rétablissez la vraie culture, celle qui enrichit puis qui approfondit. Refusez donc ce petit confort qui vous englue, puis dit pour lilliputien, comme elle dit. Vous savez, les lilliputiens, les petits hommes qui n'ont pas de grandeur. Petit dans leur âme, petit dans leur intérieur. Refusez cette indifférence religieuse qui vous crucifie et qui vous dit implicitement que tout se vaut, que tout est égal, que les opinions sont multiples, subjectives et que rien au fond n'a d'importance. Il s'agit d'une erreur, il s'agit d'un mensonge. Oh, les jeunes, nous n'avons pas à inventer la vérité. Elle existe déjà, elle s'appelle Jésus-Christ. Oh, si vous saviez combien on est heureux quand on l'a rencontré et ressenti un tant soit peu l'amour qu'il nous porte. Vérité qui est transcendante, éternelle, vivante. Révoltez-vous contre la violence, la bêtise, la paresse, la tiédeur, et que votre révolte réussisse, car elle sera celle de l'amour, dans l'amour et pour l'amour, une révolte dictée par l'Esprit Saint, la révolte des enfants de Dieu. Il faut se décider. Nous avons un évêque à Montréal. Je vous apprends rien. Il s'appelle le cardinal Turcotte. Qui a dit, il y a quelques années, « Soyez des hommes de foi. Soyez des chrétiens audacieux. À notre époque, il n'est pas facile d'être croyant, d'accord. Notre foi est mise à l'épreuve, elle est attaquée. Des affirmations qui semblaient solides comme le roc peuvent être remises en cause autour de nous. Et nous nous posons des questions. Si nous nous posons des questions avec le courage de les scruter à fond et avec sérieux, il nous faut une foi. » Aux assises solides, mûries et réfléchies, les premiers chrétiens, dit-il, ont été extrêmement audacieux, ne parla-t-il pas, avec assurance sur les places publiques, et le cardinal Turcotte termine en disant « Personne ne pouvait les empêcher de parler de Jésus. Le secret de leur force, c'était leur foi en Jésus. Le Christ habitait en eux par son esprit, et si vous êtes des passionnés du Christ, vous témoignerez de lui avec enthousiasme. » Vous ne pouvez jamais oublier que dans la vie de foi, quand on parle de la vie de foi, on parle d'ouverture à l'Esprit Saint, on ne se réfère pas à une question secondaire. Parce que sans ouverture, là, il y a seulement une connaissance abstraite de Jésus-Christ, une espèce de gnose. Et c'est cette hérésie ancienne, mais jamais suffisamment combattue, qui règne dans notre monde. On dit que, une fois que tu connais le mystère, tu es en ordre. Mais, ce qui est important, c'est l'expérience spirituelle. C'est pas une doctrine ou un échafaudage d'idées. Il s'agit pas de lire des paquets de livres, nécessairement. C'est l'action insistante de l'Esprit-Saint de Jésus qui t'appelle à t'assimiler au Christ vivant. Comment ça? La gnose, ou l'espèce de rêve spirituel, rend effectivement vain, inutile, le mystère de l'incarnation du Christ il y a 2000 ans, qu'on va fêter, là, dans quelques mois, 2000 ans. C'est-à-dire, l'incarnation, c'est le moyen avec lequel la parole de Dieu s'est manifestée, s'est incarnée, s'est manifestée. Manifesté encore et se manifeste toujours aujourd'hui dans son corps qui est l'Église, avec une tête qui est le pape. Ne sortons pas de cette Église. Elle est admirable, elle est critiquée, parfois avec raison. Mais l'essentiel de l'Église est grandiose, car on y trouve le Christ vivant. C'est lui qui est là et qui se donne à nous. Je vous ai fait une émission le 8 septembre 1999 sur Medjugorje. Et la Sainte Vierge, je dirais, si c'est tout authentique, quelque chose d'extrêmement important et de prioritaire. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, convertissez-vous. Retournez à Dieu, parce qu'il y a Dieu, il existe. Dans des dialogues qu'on fait constamment avec les gens des autres religions, comme on voudrait l'établir dans nos écoles catholiques, c'est pas une mauvaise chose qu'on connaisse les autres religions. Mais c'est curieux que les chrétiens, devant ça, finissent par dire que tout se vaut, puis ils sont incapables maintenant, ils sont plus capables de se défendre sur la vie, sur l'indissolubilité du mariage, sur le caractère magnifique des sacrements, sur tout le mystère de l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, là. Parce que devant les bouddhistes, on sait plus quoi dire. Et c'est pourquoi, selon un grand nombre, il faut aller à la rencontre des signes des temps que les hommes proposent. Mais Jésus a dit à ses disciples, allez et annoncez. Et c'est pour l'annonce de ce mystère que, grâce à Dieu, maintenant, il y a non seulement le catéchisme de l'Église catholique, mais un retour à des vérités fondamentales sur l'amour de Dieu notre Père. La conséquence la plus dramatique de la gnose, c'est la dissolution de l'expérience de communion, c'est-à-dire la dissolution du mystère du Christ, qui a fait l'unité, lui, dans le don de l'Esprit. Comment ça s'est fait, ce don de l'Esprit? Vous vous souvenez, c'est l'assemblée des 11 apôtres, là. Il y en avait un qui était mort, était pendu, semble-t-il. Et ensemble, avec quelques femmes, surtout avec Marie, la mère de Jésus, persévère unanimement dans la prière. Et qu'est-ce qui leur arrive? Ils reçoivent une unité du Seigneur. L'unité est le fruit de cette recherche constante de Dieu, c'est l'Esprit-Saint. La prière qui invoque l'Esprit-Saint donne, nous donne à chacun d'entre nous une communion indestructible. L'activité de l'Esprit-Saint consiste essentiellement à nous tourner vers Dieu. Dans la disponibilité à sa volonté, c'est ce que les jeunes, on devrait leur enseigner. Car, où il n'y a pas l'accueil du mystère du Christ, dans sa radicalité, arrive ce que dit Saint Paul. Qu'est-ce qu'il dit Saint Paul quand les gens sont tout ramollis, quand les chrétiens ne se confessent plus, communient n'importe comment, vont à la messe quand ça leur tente, et puis trompent et font n'importe quoi, et puis vivent n'importe comment. Il dit, c'est pour cela, c'est Saint Paul qui parle, c'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, c'est pour cela qu'il y a parmi vous de nombreux malades et infirmes, et que bon nombre sont morts. Qu'est-ce qu'il veut dire? Des malades de l'âme, des infirmes de l'âme. Et leur vie spirituelle est morte. Parce qu'on mange et boit indignement le corps du Christ. En fait, lequel d'entre nous prend au sérieux d'être greffé sur le corps du Christ? D'être un seul corps dans le Christ Jésus, il faut prendre ça au sérieux. Et si on le prenait au sérieux, nos enfants y croiraient peut-être, il me semble. Si c'est réel et non seulement intentionnel, ben alors naissent des communautés enflammées. On le voit, il en est, il y en a. En France, on en a beaucoup, et ici, il en apparaît un peu partout. Ça existe chez nous, les communautés où il y a un feu sacré, où il y a vraiment de l'espérance, où il y a de l'enthousiasme, où il y a quelque chose d'autre que de l'abandon. Le pape disait, à la jeunesse lors des 12e journées mondiales de la jeunesse, très chers jeunes. Comme les premiers disciples, suivez Jésus, n'ayez pas peur de vous approcher de lui, de dépasser le seuil de sa maison, de parler avec lui face à face comme l'on s'entretient avec un ami. N'ayez pas peur de la vie nouvelle qu'il vous offre. Et j'aime bien ce qu'il dit après. Il vous donne lui-même aussi la possibilité de l'accueillir et de le mettre en pratique. Ce qu'il dit, de le mettre en pratique, car vous allez vivre de lui avec le don de son esprit. Il est vrai, Jésus est un ami exigeant, dit le pape, qui indique des hauts sommets. Il demande de sortir de soi-même pour aller à sa rencontre en lui confiant toute la vie. Qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera, dit-il. Et cette proposition peut paraître difficile à bien des jeunes, et à bien des gens âgés aussi. Le pape dit que ça peut même faire peur. Mais, dit Jean-Paul II, je vous le demande, est-il mieux de se résigner à une vie sans idéal, sans idéaux, à un monde construit à sa propre image et ressemblance, molle, ou plutôt de chercher avec générosité la vérité, le bien, la justice, puis de travailler pour un monde qui soit le reflet de la beauté de Dieu, même au prix de devoir affronter les épreuves que cela comporte? Quel est le chef spirituel qui nous parle aussi bien? Il déclare ensuite, renversez donc les barrières de la superficialité et de la peur. Il parle aux jeunes, et en vous reconnaissant hommes et femmes nouveaux, régénérés par la grâce de votre baptême, eh bien, conversez, parlez avec Jésus dans la prière, puis dans l'écoute de sa parole. Lisez l'Évangile, goûtez la voie de la réconciliation en allant vous confesser. Recevez le corps et le sang du Christ dans l'Eucharistie, vivant. Accueillez-le, dit le pape, et servez-le dans les frères et les sœurs, dans vos amis, dans vos parents. Vous découvrirez la vérité sur vous-même et l'unité intérieure, et vous trouverez ce « tu », avec un T majuscule, T-U, qui guérit les angoisses, les cauchemars, le subjectivisme sauvage qui enlève la paix, car le Christ guérit. Un de ses derniers éditoriaux dans l'église de Montréal. L'abbé Yvan Desrochers écrivait, frères et sœurs chrétiens, je vous pose la question comme je nous la pose. Lorsque des jeunes s'interrogent sur cet homme dont on parle depuis 2000 ans, que dit-on à la propre question de ce Nazaréen? Qui dites-vous que je suis? C'est dans l'évangile d'aujourd'hui. Qui est-il dans nos vies de parents, de travailleurs, d'éducateurs, de baptisés, cet homme qui, un matin de Pâques, a donné la preuve qu'il aimait au point d'en mourir et de vaincre la mort, et notre mort aussi avec la sienne? Or, nous manquons de prêtres, c'est une évidence de foi. Et l'abbé Desrochers, prêtre âgé, qui n'est plus directeur maintenant, il a quitté, pris sa retraite. Il dit, mais mettons ensemble à notre manière notre humanité, où qu'elle se déploie dans la dépendance du Père. Des jeunes comprendront alors, en nous voyant, que Dieu les appelle à travailler de manière toute particulière, à faire quelque chose, que seuls les prêtres peuvent faire, se donner complètement, totalement, pour proclamer les vérités vraies, les valeurs chrétiennes authentiques, et célébrer l'Eucharistie, en la présidant, pour aider le monde à vivre de la vie de Dieu en eux. Ô toi, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, toi, Père qui es amour et vie, fais que sur cette terre, par ton Fils Jésus-Christ, né d'une femme, et par l'Esprit Saint, source de charité divine, chaque famille humaine devienne un vrai sanctuaire de la vie et de l'amour pour les générations qui se renouvellent sans cesse. Que les jeunes trouvent dans la famille un soutien inébranlable qui les rende toujours plus humains et les fasse grandir dans la vérité et dans l'amour. Amen. C'est une prière du pape Jean-Paul II.